Bienvenue dans le podcast « Où va l'argent ?» de Transparency International France. Je suis Charlotte Palmieri.
Et moi, Sarah Brimbeuf.
Nous avons le plaisir d'accueillir Clémence Witt. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris et Barcelone. Vous exercez dans des dossiers souvent à dimension internationale. Vous avez notamment travaillé au Cambodge, au sein de l'équipe de défense, devant les chambres extraordinaires. Élue secrétaire de la conférence en 2015, vous êtes intervenue dans plusieurs dossiers criminels à fort retentissement, y compris en matière terroriste. Vous avez par ailleurs développé une expertise reconnue en matière d'extradition et de crimes internationaux, en représentant notamment des victimes dans des affaires liées à des attaques chimiques en Syrie. Clémence, nous sommes ravis de vous recevoir et merci d'être avec nous.
Merci à vous cette invitation.
Alors, nous avons décidé de nommer ce podcast « Où va l'argent ?». Première question, qu'est-ce que cela vous évoque ?
C'est une question tentaculaire. C'est celle de l'économie du crime, qu'il s'agisse du crime de sang ou du crime d'argent. La première chose, c'est l'impérieuse nécessité de mettre en lumière les flux financiers et de pouvoir les tracer pour identifier des auteurs et déterminer des responsabilités pénales. C'est le cœur du travail du parquet national financier, des enquêteurs spécialisés, des ONG comme la vôtre, parfois de journalistes d'investigation ou d'avocats. C'est un travail qui est de plus en plus complexe parce qu'on est face à des flux financiers de plus en plus opaques et avec une criminalité qui s'internationalise et des acteurs qui se multiplient. On est face à des États corrompus, on est face à des multinationales qui interviennent en zone de guerre. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette traçabilité des flux financiers, elle était cantonnée pendant quelques décennies aux dossiers de corruption et d'infractions économiques et qu'aujourd'hui, elle vient investir un champ plus large qui est celui de la complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, qui est celui du financement du terrorisme. Le second aspect, c'est in fine, où va l'argent du crime ? Et là, on est face à une question séculaire. Je pense notamment au débat sur l'indemnisation des descendants d'esclaves, à l'arsenal législatif qui a pu être mis en place pour récupérer les biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense évidemment à la bataille judiciaire fantastique de Maria Altman pour récupérer les tableaux de Klimt. Et finalement, cette question où va l'argent, elle est à la fois technique sur la traçabilité des flux financiers, infiniment humaine, parce que finalement, le sens de la justice, c'est aussi la réparation. Et d'ailleurs, le sens de la peine en matière pénale, il est triple. C'est punir, dissuader, réparer. C'est la raison pour laquelle cette question « Où va l'argent ?» est une question tentaculaire, mais cruciale pour ces deux raisons.
Et on va y revenir sur ces enjeux de réparation.
Alors, pour introduire un peu plus, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots votre quotidien d'avocate pénaliste, à savoir le type d'affaires sur lequel vous intervenez et quelque part aussi les enjeux qu'elles soulèvent?
Alors, le principe du quotidien d'un avocat pénaliste, c'est que aucune journée de travail ne se ressemble. Moi, j'interviens à la fois en défense et du côté des victimes, à la fois pour des individus, des personnes morales, que ce soit des entreprises ou des ONG. Donc, c'est un champ extrêmement large. La première chose, c'est la gestion de l'urgence. Quel que soit le côté où on se situe, on peut être amené à intervenir en urgence pour une garde à vue ou pour un déferrement. Mais sinon, dans les dossiers qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont des dossiers de plus grande ampleur, des dossiers complexes, souvent au long cours, l'une des spécificités peut-être, quand on intervient notamment du côté d'ONG ou de survivants de crimes contre l'humanité, c'est que lorsqu'on est face à des États avec lesquels il n'y a pas de coopération judiciaire, et je pense notamment à la Syrie de Bachar al-Assad entre 2011 et la chute du régime, finalement le rôle de l'avocat pénaliste, il est un peu différent du rôle prévu dans la mesure où nous accompagnons des ONG, des acteurs de terrain à la collecte de preuves et ensuite on se charge d'essayer de judiciariser ces preuves, ce qui implique une vraie réflexion sur quels sont les standards. En droit français, la preuve elle est libre, mais il y a quand même des obligations en termes de loyauté et de légalité, et donc ça nous a obligés, avec ma consoeur Jeanne Sulzer, avec laquelle j'interviens beaucoup dans ces dossiers-là, à réfléchir à finalement des standards internationaux de recevabilité de la preuve, et on s'attache toujours à pouvoir retracer l'origine de la preuve, où est-ce qu'elle a été collectée, par qui, dans quel contexte. Et cette traçabilité, alors c'est pas la traçabilité des flux financiers, c'est la traçabilité de la preuve, elle est aussi clé si une procédure va au bout. Ça, c'est donc quand on intervient très en amont et que la justice française ne peut pas enquêter et que donc on apporte des éléments qui ensuite seront judiciarisés et qui ensuite seront soumis au principe du contradictoire et puis au filtre du parquet, du juge d'instruction, etc. Dans un second temps, on fait face à un travail de fourmi. Il y a cette exigence qui est peut-être assez méconnue dans le travail de l'avocat pénaliste, c'est que on passe des dizaines, des centaines d'heures parfois à analyser minutieusement, qu'on soit en matière terroriste, en matière de corruption, en matière de crimes contre l'humanité, des dossiers d'instruction qui font parfois des dizaines de milliers de pages, surtout quand on n'intervient pas dès le départ. Et ce travail de fourmi, il pose une question, notamment quand on intervient du côté des plus vulnérables, qui est une question d'égalité des armes. C'est pas facile d'intervenir contre un État, contre une multinationale, qui va avoir une armée d'avocats, de consultants, de conseillers, d'experts privés. Et je pense que c'est un défi très important. Une autre contrainte et un autre aspect, c'est que le temps de la justice est long, ce qui nous impose de mettre en place avec nos clients des stratégies souvent avec plusieurs tiroirs, avec plusieurs scénarios. Et surtout, il y a une exigence, je crois, de pugnacité, de se dire qu'on ne va pas lâcher parce que on est tout le temps dans une logique de combat pour que les dossiers avancent, dans un sens comme dans l'autre. Ça marche souvent, mais pas toujours. On ne peut pas parler que des dossiers qui fonctionnent, on peut aussi parler des dossiers qui n'avancent pas et qui malheureusement seront fermés. Je pense notamment au dossier dans lequel nous avons représenté avec ma collaboratrice Anaïs Sarron l'ONG The Sentry, qui avait publié un rapport d'information qui mettait en lumière de potentiels flux financiers entre une filiale du groupe Castel et des milices en République centrafricaine. Ce dossier a été une enquête avait été ouverte de façon automatique, sans même un dépôt de plainte par le parquet national antiterroriste en matière de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. C'est un dossier qui a malheureusement fait l'objet d'un classement sans suite et qui, je crois, met aussi la justice face à ses propres limites. C'est compliqué d'enquêter quand il n'y a pas de coopération judiciaire internationale. Ça pose aussi une question de protection des sources, de protection des témoins et de réactivité de la justice quand on parle de terrain ou de relations diplomatiques extrêmement volatiles. Et puis, quand l'enquête ou l'instruction fonctionne, il y a ensuite le temps de l'audience, qui est un temps très à part, qui est un temps qu'on chérit particulièrement, qui parfois est aussi un défi. Je pense notamment à l'audience du Bataclan qui a duré 9 mois. Comment on fait pour être présent pendant 9 mois à une audience tout en faisant tourner un cabinet? Et puis, audience dans des dossiers emblématiques qui sont souvent sous le feu d'une attention médiatique particulière. Et donc, on est amené à accompagner nos clients aussi dans la gestion de la presse et la gestion de la communication.
Vraiment un métier multifacette. Je rebondis sur une partie que vous avez mentionnée sur la traçabilité de la preuve. On voit de nouvelles stratégies, en tout cas embrassées par certains acteurs, y compris non gouvernementaux, qui consistent à partir des flux financiers illicites pour dénoncer d'autres infractions, telles que les violations de droits humains. Est-ce que c'est une approche, celle follow the money, pour dénoncer le crime de sang derrière le crime d'argent? Est-ce que c'est une approche que vous avez déjà rencontrée dans votre pratique?
Alors pour le coup, je ferai une distinction peut-être entre les dossiers justement de crimes d'argent et les dossiers de crimes de sang. Très clairement, dans les dossiers de crimes d'argent, c'est absolument comme ça que commence aujourd'hui la quasi-totalité des procédures. Nous, on est intervenus, par exemple, dans un dossier non public, mais pour une personne de nationalité américaine, dans laquelle c'est le DOJ, donc le Department of Justice des États-Unis, qui avait mis en lumière des ventes et des achats d'œuvres d'art impliquant des membres du Hezbollah sous sanctions américaines. Et c'est comme ça que les bénéficiaires avaient pu être identifiés. Donc, réponse oui, et partout dans le monde. Dans les dossiers de crimes de sang, on est plutôt dans une logique
temporelle en tout cas inverse. Et je pense par exemple au dossier qui concerne la Syrie, que ce soit le dossier des attaques chimiques de 2013, le dossier de Baba Ammar, c'est-à-dire de l'attaque du centre de presse de Homs dont plusieurs journalistes avaient été victimes. On est plutôt face à une documentation des crimes principaux dans un premier temps, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et dans un second temps, une recherche par les juridictions de ceux qui ont pu financer, faciliter, soutenir.
D'accord, donc pour l'instant, pas forcément la logique inverse qui pourrait faciliter finalement la caractérisation des preuves du crime de sang.
Non, autant dans les deux chaînes crimes d'argent, c'est très prégnant, et d'ailleurs l'actualité nous le rappelle, que ce soit l'affaire du financement libyen, des parlementaires du Rassemblement National, l'affaire Renault-Nissan, alors tous ces dossiers sont des dossiers qui sont en cours, mais on est très clairement sur une traçabilité qui permet une mise en lumière de responsabilité pénale. Dans les dossiers de crimes de sang, c'est quelque chose qui est en train d'être creusé, mais je pense que c'est davantage un champ exploratoire à ce stade.
Et selon vous, quels sont les enjeux concrètement que ces affaires soulèvent, tant sur le plan juridique que sociétal ?
Les questions juridiques, elles sont multiples. Je pense à deux questions principales. Une peut-être sur les qualifications et l'autre sur l'imputabilité. Sur les qualifications, c'est par exemple développer la possibilité de qualifier doublement certains faits, de les qualifier de crimes terroristes et aussi de crimes contre l'humanité. Ça permet d'être au plus près, en fait, de la réalité des infractions qui ont été commises. Et pour les victimes, ça a une portée symbolique. Ce sont des questionnements qui ont eu lieu pendant le procès des otages de Daesh. C'est une réalité qui se concrétise dans les dossiers à venir qui visent la communauté yézidi. En termes d'imputabilité, on a par exemple énormément travaillé sur l'immunité du chef de l'État en exercice. Ce qui fait écho, bien sûr, à la lutte contre l'impunité. C'est un combat juridique de très longue haleine qui concerne aussi le dossier des attaques chimiques, dans lequel un mandat d'arrêt avait été émis contre Bachar al-Assad alors qu'il était encore président en exercice. C'était une première, c'était la première fois qu'un État émettait un mandat d'arrêt contre un autre État. En général, c'est plutôt le monopole des juridictions pénales internationales qui ont précisément été créées pour cela. Toutefois, dans ce dossier spécifique et précis, au regard de la spécificité des crimes commis, de leur immense gravité, du fait que c'était un chef d'État qui se retournait contre sa propre population et qui utilisait précisément les moyens de l'État pour commettre ces crimes, ce mandat d'arrêt a été émis. Et c'est un dossier qui est particulièrement intéressant parce qu'on a tendance à penser que finalement, le parquet et les parties civiles vont être main dans la main dans ces affaires-là. Eh bien, c'est un contre-exemple. Le mandat d'arrêt contre Bachar al-Assad, il n'a pas été mis en cause par Bachar al-Assad ou sa défense. Il a été mis en cause par le parquet national antiterroriste, qui en a contesté la validité. On a eu un débat passionnant devant la cour d'appel, débat que nous avons gagné. Il y a donc cet arrêt de la chambre de l'instruction qui vient dire qu'un tel comportement n'est pas digne d'un chef de l'État et qu'il ne peut donc pas échapper à sa responsabilité pénale. L'assemblée plénière de la cour de cassation a été convoquée sur ce sujet. L'assemblée plénière a été plus conservatrice. Donc c'est finalement un résultat un peu en demi-teinte, dans la mesure où il a été considéré, entre-temps, Bachar al-Assad n'était plus président en exercice, que l'immunité devait perdurer pendant le mandat, mais les arrêts de la Cour de cassation ont eu le mérite de mettre noir sur blanc pour la première fois le fait qu'un ancien chef d'État, comme n'importe quel agent public, peut être poursuivi face à des crimes internationaux. Et donc, une question à laquelle on est confronté aussi, c'est la question de l'indépendance du parquet, cette indépendance statutaire, qui est sûrement un champ d'exploration et un champ de travail, et je pense une réforme qui est nécessaire, surtout dans des enjeux, dans des dossiers avec des enjeux géopolitiques forts.
Réforme pour l'indépendance du parquet que nous portons depuis des années aussi à Transparency International.
Alors on en vient à une question qui est le cœur de nos travaux, à savoir la réparation du préjudice des victimes. À Transparency International, nous constatons que les victimes de la corruption restent encore largement sous-représentées, que ce soit dans les procès ou dans les mécanismes transactionnels. On le sait, vous avez travaillé donc dans de nombreux dossiers qui impliquent la réparation du préjudice des victimes. Et au regard de votre expérience, on se demandait si c'est une difficulté qui se retrouve aussi dans d'autres affaires, comme des affaires de terrorisme ou de crimes contre l'humanité par exemple, ou s'il existe finalement des blocages structurels qui sont propres aux affaires de corruption.
Alors, la réparation du préjudice, ça pose deux questions. C'est celle de l'accès à la justice et ensuite celle de l'indemnisation. Effectivement, en matière de corruption, en pratique, le seul fait d'être le contribuable de l'État pillé ne suffit pas à caractériser un préjudice directement lié à l'infraction. Donc il y a cette difficulté judiciaire d'accès à la justice. En matière de crimes contre l'humanité, il n'y a aucune irrecevabilité de principe, donc c'est plus simple au stade de l'accès à la justice. En revanche, il y a un obstacle double qui va être, d'une part, l'obstacle sécuritaire et ensuite une méconnaissance des droits. Et je pense, par exemple, au procès de Roger Lumbala, dans lequel je suis intervenue en fin d'année dernière avec ma consoeur Jeanne Sulzer. On a réussi à faire venir, avec d'autres, des victimes des crimes, mais au prix d'un travail colossal, main dans la main avec la justice, pour faire venir des populations extrêmement reculées dans un contexte sécuritaire très tendu jusqu'à la cour d'assises de Paris. En matière de terrorisme, je dois dire que le mécanisme qui entoure les victimes est de façon générale particulièrement performant en France. Le seul obstacle auquel nous, on a été confrontés en pratique, c'est un problème d'identification des victimes étrangères. Il y en avait notamment eu un raté dans le dossier du Bataclan, puisque une partie des victimes étrangères, notamment celles qui résidaient au Chili, n'avaient jamais été touchées par la justice française et donc se sont constituées partie civile à travers notre activité en toute dernière minute. Donc procès terroriste, arsenal législatif et jurisprudentiel beaucoup plus simple, en pratique des difficultés logistiques d'identification des victimes et une question fondamentale d'accès au débat lors du procès. On avait été plusieurs à se battre pour qu'une web radio soit mise en place avec une traduction, parce que l'accès à la justice, c'est aussi comprendre ce qui se passe lors d'un procès. Les blocages structurels, du coup, en termes d'accès à la justice, c'est principalement des problèmes sécuritaire, et je pense à deux choses. Il n'est pas possible en France de se constituer partie civile de façon anonyme, ce qui semble normal, hein, dans le respect du contradictoire aussi et des droits de la défense. On a en revanche le statut de témoin anonyme qui peut permettre de protéger des sources ou des témoins, mais en réalité, il n'existe pas de programme de protection réel et effectif. Dans le cadre du procès V13, il y avait un statut très nouveau qui avait été créé pour l'une des témoins, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et je pense que c'est une faiblesse importante à laquelle on devrait réfléchir si on veut continuer de poursuivre des dossiers complexes sur des terrains de guerre ou sur des terrains sécuritaires compliqués. La deuxième question, c'est donc celle de l'indemnisation et de la réparation du préjudice. Alors, quand l'auteur de l'infraction est insolvable, il y a plusieurs mécanismes qui existent. Il y a d'abord le fonds de garantie des victimes d'infraction. C'est un mécanisme qui repose sur la solidarité nationale. Il est indépendant de la procédure pénale, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire, et ça c'est un plus, pour les victimes d'attendre l'issue de la procédure pénale pour être destinataire d'une provision sur leur indemnisation. Il est, là encore, très performant en matière de terrorisme, mais il a deux limites. Il exclut complètement de son champ les victimes d'infractions financières. Et toutes les victimes étrangères de crimes commis à l'étranger, quels qu'ils soient, crimes contre l'humanité, terrorisme, en sont aussi exclues. Donc ça, c'est le fonds de garantie, ce mécanisme de solidarité nationale. Le second mécanisme que vous connaissez très bien, c'est la GRASC, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. C'est un mécanisme subsidiaire, c'est-à-dire que les victimes qui ne sont pas éligibles au fonds de garantie peuvent se tourner vers la GRASC. Et une fois les biens confisqués vendus, l'indemnisation
dont doit être bénéficiaire au terme du procès pénal la victime, peut être prélevé sur ses fonds. À mon sens, il y a plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est que ces deux mécanismes sont indépendants. Le fonds de garantie, il ne peut pas se retourner vers la GRASC pour percevoir des fonds. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles le fonds de garantie a un champ d'action restreint, c'est précisément parce qu'il repose sur la solidarité nationale et éventuellement sur la solvabilité des auteurs s'ils le sont. Cette indépendance entre les mécanismes, c'est évidemment une limite. Ce qu'il faudrait, à mon sens, généraliser, c'est les pratiques de saisie et de confiscation, précisément au champ du financement du terrorisme, au champ des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Parce qu'en réalité, c'est un réflexe qu'a beaucoup le parquet national financier, qu'a moins le parquet national antiterroriste. Et en fait, si on généralisait, dès le début des procédures, des mécanismes de saisie et de confiscation dans tous les dossiers dans lesquels il y a potentiellement de l'argent qui peut être récupéré, parce qu'il y a derrière les crimes une machine étatique, il y a un groupe paramilitaire extrêmement structuré, parce qu'il y a une multinationale, ça pourrait permettre d'alimenter bien plus la GRASC, et on pourrait imaginer créer un pont entre la GRASC et le fonds de garantie, ou créer un système unifié. Puis il y a un tout dernier mécanisme que vous connaissez bien, qui est la Convention judiciaire d'intérêt public, la CJIP, en matière d'infraction à la probité, en matière environnementale. Mais en réalité, c'est pas pleinement effectif. Très nombreuses conventions, plus de la moitié des conventions, en réalité, ne prévoient pas l'indemnisation des victimes, et aussi assez peu efficace, puisque 40% des victimes identifiées ne seront en réalité pas indemnisées. Donc là encore, je crois qu'on a des progrès à faire en la matière.
Oui, vous citez en effet le rapport que nous avions sorti il y a quelques années à Transparency International, où nous analysions le rôle des victimes et la réparation de leurs préjudices dans ces mécanismes de justice négociés. Ben, c'est très intéressant, en fait, vous transposez cette logique de confiscation qui est cruciale dans les affaires de biens mal acquis aux affaires de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre pour justement réparer le préjudice des victimes de la corruption. Alors, je reviens sur ces affaires qui, pour nous, sont centrales, hein, les affaires des biens mal acquis. Vous intervenez aujourd'hui, vous représentez Transparency International dans des dossiers emblématiques relatifs aux avoirs des familles Bongo, donc qui a dirigé le Gabon jusqu'à récemment pendant plusieurs décennies, et la famille Sassou Nguesso à la tête de la République du Congo depuis plus de 30 ans. Ces dirigeants, leurs familles, sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics dans leurs pays respectifs, puis de les avoir investis en France, notamment dans le secteur de l'immobilier. Dans ce type d'affaires, la confiscation des produits de la corruption, donc de ces biens immobiliers et autres actifs de luxe, elle est essentielle. Les montants en jeu sont considérables et peuvent à terme être restitués au bénéfice des populations spoliées, qui sont les premières victimes de la corruption. Revenons sur cette question de la restitution. Quelle en est votre lecture et quels en sont à votre sens les enjeux les plus prégnants?
Alors en fait, il y a deux choses. Il y a la réparation d'un côté, dont on vient de parler, il y a aussi la restitution. L'idée de restitution, c'est l'idée de remettre dans un état préexistant à la commission des crimes. Là-dessus, il y a en France cette loi du 4 août 2021 sur la restitution des avoirs et des biens aux populations spoliées qui a été complétée par une circulaire de 2022 qui est particulièrement intéressante et qui nous fait réfléchir à la notion aussi de réparation collective. Ça se traduit non pas à ce stade en tout cas par un retour direct des sommes détournées, mais plutôt par la mise en place d'actions de coopération et de développement en faveur des populations spoliées. Alors évidemment, ça pose un problème important en pratique, qui est celui de l'attitude de l'État de la population concernée, avec parfois des États qui tentent de récupérer les sommes qui ont elles-mêmes été détournées, qui peuvent tenter d'entraver ce processus de mise en place de programmes d'accompagnement, de programmes d'aide au développement directement en faveur des populations. Je crois que la France pourrait s'inspirer peut-être davantage de la pratique suisse. Et je pense notamment à l'affaire Abacha 2, dans laquelle il y avait eu en 2017 cet accord tripartite entre la Banque mondiale, le Nigeria et la Suisse pour un véritable retour d'une partie des sommes détournées aux populations locales. En pratique,
Si je ne me trompe pas, cette loi, elle n'a pas encore d'application effective. Il y a un combat judiciaire en cours très fort dans le dossier des biens mal acquis Guinée-Équatoriale, avec une procédure devant la Cour internationale de justice entre la Guinée et la France, qui est un combat que vous menez. En matière de crimes contre l'humanité, par exemple, la confiscation, elle est en réalité plus facile à obtenir en droit. Alors, pas en pratique, mais en droit, dans la mesure où il n'y a pas besoin de systématiser, de montrer, de prouver un lien entre le bien et l'infraction. C'est la raison pour laquelle, en réalité, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, il serait possible pour les victimes de crimes contre l'humanité de se retourner assez facilement contre la GRASC dès lors que des biens seraient saisis. On pourrait aussi imaginer une transposition, un duplicata de cette loi de 2021 en matière de crimes contre l'humanité. Et puis, on peut aussi regarder ce qui se passe, par exemple, devant la Cour pénale internationale, devant les tribunaux ad hoc, qui prévoient des mécanismes de réparation collective. Je pense notamment au Trust Fund for Victims, au FTV devant la CPI, qui prévoit des mémoriaux, des projets pour les communautés. Et je pense aussi aux chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens qui prévoyaient ces restitutions, ces réparations collectives. Donc il y a à la fois la question de la réparation individuelle de la victime touchée et puis de la restitution à l'ensemble d'une population spoliée.
Non, c'est en effet passionnant et c'est vrai que pour revenir sur la loi de 2021 que nous avons portée activement, elle est en effet inappliquée pour le moment. Elle va fêter ses 5 ans cet été. Et en effet, il y a 3 dossiers en suspens, la Syrie, le Nigeria et la Guinée équatoriale. Et je le rappelle à nos auditeurs, en fait, il n'y a rien de plus simple que de supprimer une loi. En fait, il suffit de refaire passer une autre loi. Donc il est primordial de, en tout cas, la mettre en œuvre le plus vite possible avant qu'un changement de volonté politique n'enterre peut-être cette belle loi imparfaite mais néanmoins ambitieuse.
Alors, on voulait prendre le temps de revenir aussi sur votre parcours professionnel, qui est particulièrement riche. On a beaucoup d'étudiants qui généralement nous écoutent et qui pourraient être inspirés. Peut-être pour recommencer au début, qu'est-ce qui vous a finalement conduit vers le métier d'avocate pénaliste ?
Alors, je viens d'une famille où il n'y a pas d'avocat, de magistrat ou de juriste. Donc, ça a été avec un peu de curiosité que mes parents ont accueilli ce projet quand j'étais très jeune, quand j'étais adolescente. Je crois que ce qui m'a portée, c'était l'idée de défendre, l'idée de porter la voix de ceux qui n'en ont pas. Et c'est un avocat qui m'a permis de me confronter à la réalité du métier d'avocat pénaliste et qui a confirmé ce souhait. C'est Laurent Decaune, c'est un avocat pénaliste toulousain, chez qui j'avais fait très simplement un stage d'observation. Et j'avais pu me plonger dans le dossier fleuve de la josacine, qui était un dossier emblématique de l'époque, où un médicament avait été retiré du marché parce qu'une petite fille était décédée empoisonnée. Et on s'était finalement rendu compte qu'il s'agissait d'un crime et pas du tout d'un défaut du médicament, et que ce n'est pas la victime qui aurait dû, que ce n'est pas la petite fille qui aurait dû prendre ce sirop. Donc c'est un dossier particulièrement emblématique qui était déjà jugé quand je suis arrivée à son cabinet, mais j'avais pu me plonger dans ce dossier tentaculaire du scandale de la josacine, que j'avais trouvé particulièrement technique, intéressant et à rebondissement. Et puis j'avais aussi eu la chance d'assister à une audience correctionnelle où il représentait les intérêts d'une médecin anesthésiste qui était poursuivie pour homicide involontaire parce qu'un patient était décédé dans le service des urgences. Et je me souviens de la détresse de cette femme qui, de toute évidence, était par ailleurs une bonne médecin et qui tout d'un coup se retrouvait mise en cause davantage à cause d'un dysfonctionnement généralisé d'un service d'urgence. Et voilà, et donc c'est vraiment cette confrontation à la réalité de ces deux dossiers, l'un emblématique, l'autre beaucoup plus individuel, qui m'a confirmée dans ce choix.
Alors vous avez été secrétaire de la conférence, qui est donc, on vous précise, un concours d'éloquence qui récompense les meilleurs jeunes orateurs du barreau de Paris et qui est finalement l'école de l'excellence en défense pénale. Aujourd'hui, vous accompagnez aussi de nombreuses ONG en partie civile. C'est en apparence deux postures qui peuvent sembler en tension. Comment est-ce que vous les articulez concrètement dans votre pratique ?
Alors moi, je trouve qu'il est très sain, dans le cadre de l'exercice de mon métier, d'être des deux côtés. Je crois, je suis d'ailleurs convaincue, qu'on défend mieux une victime si on a déjà défendu un accusé, et vice-versa. Bien sûr, il y a une limite qui est très claire, qui est définie par notre code de déontologie, qui est le conflit d'intérêts. Et du coup, ce que je fais primer dans ma pratique, je crois, c'est les principes de liberté et d'indépendance. Et même si j'aime de plus en plus, ça fait maintenant 15 ans que j'exerce, avoir une pratique engagée, cette pratique engagée, elle est toujours au service d'un combat judiciaire, tant en défense que du côté des parties civiles. Et je crois que c'est cette notion de combat judiciaire qui permet de rester indépendant, libre, de ne jamais tomber dans une logique de conflit d'intérêts, tout en ayant une pratique engagée, qu'on soit du côté des victimes ou du côté de la défense.
Et alors, dans cette carrière, dans ce combat judiciaire, si vous deviez revenir sur un moment charnière de cette carrière, y a-t-il une affaire, une audience, une décision qui vous a marqué ou qui a profondément influencé votre manière d'exercer ?
Alors, il y en a énormément, c'est difficile. Je vais prendre un souvenir très ancien et un souvenir récent. Le souvenir très ancien, c'est quand je travaillais au Cambodge dans l'équipe de défense dirigée par Jacques Vergès et qu'on défendait du coup les intérêts de Khieu Samphan, qui était l'ancien président du Kampuchea démocratique, qui est le régime Khmer Rouge, qui a été condamné pour avoir commis des crimes contre l'humanité et un génocide. C'était un dossier vertigineux pour l'élève avocate, puis l'avocate que j'étais, mais j'ai trouvé passionnant d'être confrontée au plus tôt, au plus difficile, c'est-à-dire défendre celui qui est accusé des pires atrocités. Et je me souviens notamment de notre première rencontre au parloir. Les faits étant d'une gravité infinie, je m'attendais à rencontrer un personnage odieux. L'homme est parfois décorrélé de ses actes et de ses crimes. Et je crois que ça avait été très intéressant pour la très jeune avocate que j'étais d'être confrontée à cette dichotomie qu'en réalité on rencontre tout le temps dans notre quotidien d'avocat pénaliste, c'est-à-dire un client qui peut être et qui est généralement extrêmement respectueux et courtois avec son avocat, tout en étant accusé de faits d'une exceptionnelle gravité. Et c'est là justement, ça m'a peut-être permis de comprendre le lien de confiance indispensable qu'il faut lier, qu'il faut créer, qu'il faut tisser avec un client pour pouvoir le défendre au plus près. Un exemple plus récent, ça restera le mandat d'arrêt contre Bachar al-Assad. Alors évidemment qu'il n'a pas été confirmé par la Cour de cassation, mais qui, je crois, est un premier pas, un coup dans la porte, une avancée en matière de lutte contre l'impunité et de tout ce que ça a pu représenter pour nos clients. C'est-à-dire que personne ne croyait à l'émission de ce mandat d'arrêt et à sa potentielle légalité. Et notre victoire devant la Cour d'appel, quand bien même elle a été remise en cause par la Cour de cassation, elle montre que le rôle du juge est central pour faire avancer les choses et que finalement, c'est au fil de petites victoires judiciaires qu'on fait bouger les lignes. Et c'est une décision qui, du coup, reste porteuse d'espoir. Il y avait eu la célèbre affaire Pinochet, avec la mise en cause de Pinochet par la Chambre des Lords, alors que c'était un ancien chef d'État. À l'époque, tout le monde parlait d'une folie judiciaire. Finalement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui entériné. Et on espère, du coup, que ce précédent Bachar al-Assad, il puisse, dans certains contextes, être dupliqué et que cette justice française saisie de crimes internationaux, elle puisse parfois prendre des positions avant-gardistes, courageuses et indépendantes.
C'était passionnant. Merci beaucoup, Clémence Witt, pour ce partage d'expériences très, très riche.
Merci beaucoup. Merci à vous.
C'était Où va l'argent, le podcast de Transparency International France. Pour aller plus loin, retrouvez nos actualités et l'ensemble des épisodes sur notre site internet transparency-france.org et sur nos réseaux sociaux.